Voilà, au Paris ça. Oui,
c'est là. Alors, la caméra passe. What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded,
sir. Aggredisci.
Passato forte, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, les furieux, les décalés, les paumés ou poètes du cinéma, bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, je suis confuse. Oui, Sylvain, je ne sais plus quel jour, quelle heure, quelle année nous sommes. Je suis un peu furieuse contre moi-même, j'ai l'impression de perdre la mémoire. Nous allons parler du cinéma d'Evance, mais alors... Et ça veut dire quoi? Nous sommes le 7 juin 2023.
Elle débarque. Hein.
Non, on va parler de Memory. Donc, on est le 31 mai 2024. Non, non, parce qu'on va parler... Alors, je ne sais plus même si on va parler de Furiosa.
Ses souvenirs sont un peu en vrac. Sylvain, on fait quoi, là, exactement?
Mais on est le 24. Non, je ne sais plus. Je compte sur vous. Alors, sur vous, c'est toi, Olivier, bonjour.
Oui, on peut se tutoyer depuis le temps.
Bonjour, ouais. Olivier.
Bonjour, je trouve tes introductions de plus en plus élaborées.
Ah ben, c'est tout un travail. Sylvain, à la réalisation, salut Sylvain.
Salut.
Et la confusion totale, Mathieu qui est là sans être là, ou qui n'est pas là en étant là, je ne sais pas. Ben, salut Mathieu, peut-être il nous rejoindra en cours d'émission, puisque au programme, en effet, de ce Cinémascope, on va parler de Memory. On va peut-être parler de Furiosa, si Mathieu arrive, mais aussi de la petite vadrouille que tu as vue, Olivier.
Oui, avec plaisir.
Mais ça, c'est le programme des films. Mais avant, on va parler du cinéma Vivance, puisque oui, le cinéma d'Evance, Vivance, rouvre le 19 juin. Alors, c'est une super nouvelle pour celles et ceux qui étaient orphelins de cinéma.
Ouais, quel cinéma en plus, hein.
Depuis plus de 9 mois. Et on fait un petit point avec Emmanuelle Balm, qui est conseillère municipale et référente cinéma pour la commune. On fait un petit point sur le cinéma. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Sophie.
Alors, Emmanuelle, excite la délégation de services publics. Le cinéma est maintenant géré en régie directe, c'est-à-dire que c'est un cinéma municipal. Première question, juste pourquoi ce choix?
Alors, parce qu'on avait des travaux à réaliser sur le bâtiment, parce qu'il y avait des fuites au niveau du toit. Le matériel technique était plus tout à fait à jour. On en a aussi pour profiter pour changer quelques fauteuils qui étaient vraiment endommagés et repeindre le hall. Donc on avait besoin d'un temps d'arrêt en fait pour faire tous ces travaux et la régie municipale s'est avérée être le système idéal pour gérer le cinéma et pouvoir se permettre de prendre des temps de pause pour pouvoir faire ces travaux.
Il n'y avait pas la pression du calendrier pour la délégation de services publics. Alors, une deuxième question. J'ai lu dans la tribune de février que le maire d'Evance, Jean-Marc Michel, déclarait « Il s'agira d'avoir un œil en particulier sur la programmation, même s'il est acté qu'une commission en aura la responsabilité. » Qu'est-ce qui peut assurer que la programmation ne soit pas politique, mais bien mue par une volonté de montrer la richesse du cinéma?
Alors, pour ça, en fait, on a créé un comité d'exploitation qui aide à gérer la programmation du cinéma. Donc, sur ce comité, il y a 4 élus, 3 personnes de la société civile, donc qui n'ont rien à voir avec la municipalité et qui peuvent proposer des films, tout en sachant que c'est notre gestionnaire de cinéma qui a la main mise, en fait, sur la programmation. La municipalité, en soi, n'intervient pas du tout sur le choix des films.
D'accord, donc c'est un rôle consultatif et pas... Ok. Et justement, le gestionnaire, un mot sur son parcours et quel va être son rôle? Alors, comment il s'appelle déjà?
Alors, c'est Alexis Geffard, qui nous vient de Vendée, qui a plus ou moins baigné depuis tout petit dans le cinéma. C'est vraiment sa passion. Et son rôle, en fait, ça va être de gérer tout le cinéma. Donc, la programmation, accueillir les spectateurs, organiser des événements avant les séances ou après les séances, comme des ciné-goûtés ou ciné-cafés. Il a un rôle vraiment très complet, et aussi de s'occuper de la communication autour du cinéma.
Et la classification art et essai qui avait été obtenue, ainsi que le label jeune public, est-ce que c'est quelque chose que vous allez travailler à récupérer ?
Alors tout à fait, donc on a une ligne de programmation, et il est bien spécifié dedans qu'on va essayer de se rapprocher au maximum des 50% art et essai avec le label jeune public et potentiellement le label patrimoine et répertoire. Et
art et essai, bien sûr, voilà.
Donc on va essayer de maintenir un équilibre comme ça pour que tout le monde puisse y trouver son compte, que ce soit les enfants, le grand public et les personnes qui préfèrent art et essai, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de personnes, beaucoup de spectateurs qui sont vraiment attachés à ce label art et essai.
Oui, c'était vraiment c'était...
Le message a été très clair, oui.
Une dernière chose avant de parler de la programmation et de ce qui va avoir lieu le 19 juin, donc pour la réouverture. Le maire précisait également que cet espace serait également dédié aux conférences et autres, devenir en quelque sorte un espace multiculturel dans lequel le cinéma serait une activité parmi d'autres. Qu'est-ce qu'il en est de cet espace multiculturel ?
Alors, en fait, au départ, l'espace vivant, ça avait été créé justement pour être multiculturel. Là, par exemple, on a eu l'école élémentaire des Vences qui a fait son spectacle de danse de fin d'année. C'était lundi et mardi de la semaine dernière, il me semble, c'était le 27-28. Ce week-end, il y a l'association Vences Cadence. Non, pas ce week-end, pardon, le week-end prochain, excusez-moi, le 15-16, qui ont prévu de faire deux représentations de danse. Ensuite, au printemps 2025, nous accueillerons la conférence Léopold Houllier. Donc, on essaie de faire en sorte qu'il y ait aussi des activités culturelles et pas uniquement cinématographiques dans le cinéma.
Ok. Si on parle de cinéma, alors on va parler de la rouverture le 19 juin. Comment vous avez imaginé la programmation ? Qu'est-ce qui va être projeté ?
Alors, à 15h, ça commence avec Vice Versa 2, suivi d'un ciné-goûté pour les enfants. Ensuite, à 18h, on a une séance art et essai en avant-première. C'est l'enfant qui mesurait le monde. Donc cette séance sera suivie par un pot convivial. Et ensuite, à 20h45, on a « Pourquoi tu souris ?» et toujours en avant-première. Donc on a essayé de satisfaire un petit peu tout le monde dans cette première journée de programmation.
Jeune public, grand public, art et essai. Le 19 juin, donc rouverture du cinéma à l'Évance. Eh ben, merci beaucoup et on espère plein de bonnes séances de cinéma. Fort.
On espère aussi. Et ensuite, alors je me permets juste de rajouter que de la semaine du 26 juin au 2 juillet, le Cinéma Vivance participera à la fête du cinéma.
Okay.
Donc là aussi, on a une belle programmation.
Direct, d'entrée.
D'entrée, tout à fait.
Oui, j'ai vu qu'il y avait parmi les films, nous qui sont à l'affiche, La Petite Vadrouille, Furiosa et Memory, d'ailleurs, vont passer au cinéma.
Bonne programmation pour la fête du cinéma.
Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel Balmain, de nous avoir parlé de la rouverture. À bientôt
merci.
Au cinéma.
À bientôt, au revoir.
Et oui, et ben, à nous maintenant, au cinéma. À nous deux, en effet. À nous trois. Ah, il est là, mais sur le fil. Il arrive. Prends place, je t'en prie, Mathieu. Qui va nous parler tout à l'heure de Furiosa, mais on commence d'abord, on part en vadrouille, nous, avec la petite vadrouille, le premier film.
Il faut rester élégant, raffiné. J'ai mon poste en jeu, donc il faut que tout soit de très, très grande qualité.
Oh, les croûtes.
La petite vache, je l'adore.
3000.
Ah, elle a raison, faut le faire cracher.
À chaque écluse, il faut payer 50 euros.
La frappe ? Mais c'est qui ce type ?
Quoi ? Non mais ça va.
Mais en fait, tu commences à m'emmerder là avec ta jalousie à la con.
Justine, excuse-moi, on est dans une panade inouïe.
Il n'est pas question qu'ils conduisent le bateau, hein.
Je me demande comment ils peuvent croire encore à cette histoire.
Là, vu que ce vin à midi qui était de la super piquette.
Je vais pas faire le même mec à chaque écluse quand même.
Tu te déguiseras.
Chacun respecte son engagement.
C'est une catastrophe, hein, permets-moi de te le dire.
Mais c'est une catastrophe, mais pas ce film, dis-moi. Non, du La tout. Petite Vadrouille de Bruno Podalydès avec Daniel Auteuil, Sandrine Kieberlin, Denis Podalydès qu'on a entendu notamment, et Bruno aussi lui-même.
Qui oui, joue aussi.
Olivier, ce film, est-ce que tu as goûté cette petite poésie décalée ?
Ah ben j'ai goûté énormément, et puis dans la salle, j'étais pas tout seul. Et d'ailleurs, ça pose une question un petit peu amusante. On sait que Bruno Podalydès et Denis, son frère, on se sont mis finalement au cinéma tout petit. C'est leur père qui les filmait déjà en Super 8 et c'est ça qui leur a donné. Donc, pour eux, le cinéma, c'est une production familiale un petit peu au départ, comme ça. Et puis, de familiale, c'est une production qui est devenue une production de bande. De voilà. Quand je l'avais en interview, rencontre de cinéma d'Europe, il y a quelques années, Bruno Podalydès parlait du phalanstère. De Charles Fourier, vous savez, l'utopiste français du 19e. Phalanstère, c'est la contraction de phalange. Alors ça, c'est de sinistre mémoire, un petit peu, puisque c'est des armées macédoniennes, c'est même les phalanges fascistes italiennes, mais enfin, et de monastère, un petit peu plus heureux comme image, mais enfin, ensemble, ça donne phalanstère.
Une utopie collective d'habitat partagé.
C'est ça, exactement, une utopie.
À la fin du 19e.
Voilà, qu'on pourrait qualifier de libertaire et tout à fait sympathique, hein, on n'est pas dans l'agressif, bien au contraire. Alors, la question qui se pose, c'est que, donc, une fois de plus, Bruno Podalydès reconstitue sa bande, sa famille, son équipe, pour faire un film, un nouveau film, après Comme un avion, après Adieu Berthe, une quantité d'autres, voilà, qui ne me viennent pas en mémoire immédiatement. Ça a commencé avec Liberté Oléron, Dieu seul me voit. Enfin, c'est une longue histoire, une longue pérégrination. Et on finit par se demander si les spectateurs de Podalydès forment pas à leur tour une espèce de phalanstère, et avec beaucoup de private jokes, beaucoup de clins d'œil, voilà.
Alors, tu veux dire que ça pourrait être, des spectateurs qui ne sont pas initiés pourraient se sentir un petit peu de côté?
C'est la question que je me pose, mais il se trouve que durant la projection, donc quand j'ai été le voir accompagné d'ailleurs, les rires partaient, au bon moment, de la part d'un public très jeune qui finalement devait quand même essentiellement découvrir Podalydès, et puis un public aussi âgé que moi ou plus âgé qui effectivement avait une petite tendance à démarrer au quart de tour, si bien qu'on ne sait pas si le phalanstère des spectateurs s'étend comme l'univers, n'est-ce pas, dans le vide, ou si aussi au contraire c'est confidentiel, c'est très difficile à dire. En tous les cas, il y a tout un langage qui est en place, qu'on reconnaît, et qui est créatif. C'est-à-dire, on n'est pas seulement dans la répétition de la même recette.
Parce que là, alors, tu nous as un peu... On est parti entre l'univers et le phalanstère. Ça raconte quoi, ce film ?
Oui, alors, des gens qui se connaissent bien et se doivent tous mutuellement de l'argent, ont une aubaine. Le patron, Daniel Auteuil, de Sandrine Kieberlin, a envie de séduire une femme, on ne dira pas laquelle, et pour ça, il met le paquet 14 000 euros sur un week-end. Comme Bruno Podalydès est en train de monter une base nautique, alors pour l'instant, la base nautique, elle se réduit à un drapeau européen, et il a tenté de voler un pédalo qui aurait été le premier vaisseau de sa base nautique, mais il n'a pas réussi à le voler parce qu'il a été rattrapé par le propriétaire d'une péniche qui lui a donné un deal. J'étouffe cette affaire de vol de pédalo à condition que vous me transportiez ma péniche en 15 jours d'un point A à un point B en traversant un certain nombre d'écluses. Évidemment, les deux projets se réunissent. La bande d'amis qui se connaissent fait comme s'ils ne se connaissaient pas, touche 14 000 euros à la case patron de Sandrine Kieberlin, voilà, et lui organise une croisière... canalesque, canal du Midi, oui, mais cheap, pour évidemment conserver un maximum du magot. Voilà. On est sur une bonne base.
On est sur une bonne base. Alors, et on a entendu en plus Sandrine Kiberlin qui est très drôle.
Alors, elle est incroyable. Daniel Auteuil se... Alors, lui qui ne fait pas partie de l'équipe habituelle, évidemment. Hein, c'est la pièce rapportée. C'est presque une caution supplémentaire, parce que bon, c'est quand même un acteur connu, lui-même réalisateur, hein, du Brio et autres. Donc, il est fantastique. C'est-à-dire, il s'est visiblement fait beaucoup plaisir. Je l'ai entendu en interview sur France Inter, Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin, Bruno Podalydès. Donc on sent quand même la complicité qui s'est établie entre tous, et ça fonctionne. Et on est dans l'univers poétique. Tu parlais de poésie. Je pense en introduction, je pense que tu pensais à La Petite Vadrouille, évidemment. Alors c'est un dire d'un film qu'il est poétique, ça peut paraître un petit peu galvaudé, un petit peu. Mais je crois que chez Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès et Sandrine Kiberlin et tous les autres que je vais pas citer. On a véritablement une poésie, c'est-à-dire que il arrive à travers, en filmant du burlesque, presque à un moment donné gênant, de ridicule, hein, d'une certaine manière, des situations un peu intenables comme ça. Bon, c'est poétique parce que c'est rendre compte de ça, c'est rendre compte visuellement d'une expérience intérieure finalement très profonde, émotive, affective, très profonde. Et c'est ça la poésie. J'avais presque envie de parler d'une scène, mais je la réserve parce que pour les auditeurs, parce que c'est un film qui peut se revoir avec plaisir, comme dans un avion, comme un avion par exemple, ça peut se revoir avec plaisir. Mais le premier visionnement c'est comme une pochette surprise. Alors, qu'il faut ouvrir. Et...
En tout cas, ça donne bien envie.
Ouais.
Tu m'as donné envie, Olivier.
Ouvrez la pochette surprise à ce film La Petite Vadrouille est à Aubenas. Et puis plus tard, on l'a dit, à partir du 27 juin, au cinéma d'Evance. Est-ce que ça va être aussi poétique? Je ne sais pas.
Furiosa, we've come too far.
C'était juste pour donner un petit peu le ton de bruit et de fureur, Furiosa de George Miller, dont on a déjà parlé ici. C'est René qui était au micro et qui a loué ce film en disant qu'il n'était jamais allé voir d'autres Mad Max de la saga, d'autres Mad Max, et il découvrait ce genre de film, ce qui n'est absolument pas de son goût habituel, et finalement il a trouvé ça super. Alors,
faire les films utiles, René.
Oui, mais il nous a pas dit, peut-être il lui semblait utile ce film, je ne sais pas.
Oui, peut-être, oui. Description de l'enfer, finalement.
Alors, du pétrole,
de l'eau, du pétrole, de l'eau, des armes, ouais. trois pôles qui dirigent le monde, un grand désert qui est l'Australie, monde post-apocalyptique. Ce film, donc c'est du... Alors moi, j'ai une approche particulière avec l'univers Mad Max. J'ai découvert Fury Road déjà en 2015, ça date déjà. Et ça a été, mais comment expliquer ça? Une claque. Mais vraiment, je suis allé, c'était un monde étrange, captivant, effrayant, je ne suis pas le seul à dire ça, ça peut paraître un peu exagéré, mais là, on parle quand même d'un film qui est sorti il y a presque 10 ans, je pense qu'on a du recul nécessaire. Une des plus grandes échappées et courses-poursuites du cinéma, il faut le dire, c'est incroyable, avec une musique qui était un personnage à part entière, qui arrivait à faire parler l'histoire. La musique était... dans le film, c'est-à-dire elle était
mise en scène.
Ouais, voilà, mise en scène. Hein, la musique signifiait quelque chose. Elle était jouée par les personnages, mais en même temps, elle était extra-diégétique, etc. Bon, bref, c'était vraiment un pur plaisir. Et je suis allé voir ce film avec beaucoup de doutes, parce que je me suis dit, comment il va faire pour passer après ça? Est-ce qu'il va faire une redite? Surtout que c'est un préquel, c'est-à-dire que c'est une histoire qui parle du personnage principal, encore une histoire où on a besoin de raconter le passé d'un personnage. Mais en fait, oui et non, quoi. C'est pas le propos de l'histoire. Le propos, c'est de planter déjà tout un monde qu'on n'a pas eu le temps de découvrir dans la course effrénée qui était Fury Road, alors que pourtant le monde était compréhensible. Mais C'était des parties qu'on l'on ne s'intéressait pas dans ce premier film. Le sujet était ailleurs. Et comment expliquer ça? Le rythme est donné. C'est un film qui est déjà en chapitre. Il peut y avoir c'est beaucoup de références bibliques. Ça peut paraître gros par moment, mais ouais. Tout est gros dans ce film. Comme j'ai dit, il y a la ville de Pétroville, donc c'est le pétrole, la ville des armes. Il y a beaucoup de choses qui sont très imagées, très poétiques. Tu parlais de poésie, mais de la poésie, on en voit un peu là où on veut, mais ce film est extrêmement... extrêmement contemplatif.
C'est une parabole. Non, ce que tu me
dis. Oh, oui. Il emprunte au. Je sais pas. Il peut y avoir un côté péplum. Il y a un côté un peu tout. Il puise dans tous les genres et de point de vue, mais plan cinématographique, lumière. Il y a le directeur. Il y a le directeur de l'image. Oui, c'est ça. En tout cas, le chef op qui a changé sur ce film là, ça se ressent. Mais pourtant, la patte est toujours là. Les acteurs, on a Anya Taylor-Joy qui va jouer Furiosa, donc plus jeune. On a Chris Hemsworth, qu'on a pu voir dans plusieurs films Marvel, qui pour le coup, parce que moi je suis pas trop fan de ce personnage, il joue souvent des rôles légers, des blockbusters, et là il a un rôle tout en ambiguïté, qui fait du bien, qui est... Bon bref, moi j'ai
été... Ambiguïté ?
Oui, ambiguïté. Mmh. C'est difficile de trop en parler. C'est un film qui se ressent plus, qui se raconte. Hein. C'est vraiment... comment expliquer ? La folie est au... humaine. La folie humaine est au centre de ce film. Chacun gère sa folie comme il peut dans ce monde qui est en perdition. Dans ce monde qui est... comment ils appellent ça ? Dans ce monde de la désolation. Chacun survit comme il peut, que ce soit pour manger, pour tenir psychologiquement. Et ben lui, il en fait partie, qu'il a des, ce personnage-là. J'ai oublié le nom de ce personnage. Mais pareil, c'est une référence un peu... On dirait presque un prêcheur, quelqu'un qui va apporter la bonne parole, en tout cas dans sa tête. Il est persuadé que ce monde, ce qui est vrai, est mené par des dictatures. Et lui, il veut enlever ça. Mais cet homme-là est un dictateur en puissance, en montée en puissance. Mais... il est persuadé de ça, quoi. Il voit le peuple souffrir, il est persuadé qu'il a une réponse à mener alors qu'il fait partie de ce monde complètement fou. Après, il y a le passé de Furiosa qui est extrêmement bien raconté. Mention spéciale à la jeune actrice qui va jouer donc ce rôle qui s'appelle Alila Brown, qui est incroyable. Elle va jouer Furiosa très jeune, hein, à l'âge de 8 ans, 10 ans. Elle crève l'écran, vraiment, waouh. Bon, bref, tout ça pour dire que je sais pas combien de temps j'ai à parler de ce film, mais...
tu peux encore prendre une ou deux minutes, mais...
Parce que j'ai couru comme dans Mad Max pour venir parler de ce film, pour arriver chez vous à la radio, alors j'ai en profité. J'aime bien, moi, quand les artistes créent une œuvre, comme Fury Road, qui était le précédent en 2015, et qui arrive à se détacher de ça, tout en gardant son univers. Il n'a pas joué la facilité d'une course encore. Ah oui, vous avez aimé ? La course-poursuite puissante, les musiques grandiloquentes, l'action à couper le souffle très réelle dans le désert. Eh ben non, je vais arrêter de continuer ça. Je vais vous mettre une scène, bien sûr, il y a une scène qui est incroyable de sobriété. Les musiques se coupent, il n'y a que le bruit des moteurs. C'est vraiment prenant, hein, vraiment, allez le voir en salle. En fait, je tenais à parler de ce film parce que dans le box-office... Eh ben, il peine à faire des entrées, ce film. Il est éclipsé par plein de films qu'il mérite également. Mais c'est une expérience de cinéma. 2h40 quand même de film. 2h40 qui se savoure. Ce n'est pas une course effrénée de 2h40. C'est un film où, pour les gens, je pense à René, justement, qui a découvert le monde de Max par ce film. C'est un film qui est une entrée en matière dans ce qu'il y a de plus... Oui, dans ce monde post-apo qui est quand même intriguant, fascinant. Qui prend son temps, qui pose l'histoire, qui présente des personnages, comme je disais, tout en ambiguïté. Le mal, le bien, ce n'est pas la question, c'est comment chacun fait de son mieux dans ce monde. C'est un film qui parle de vengeance, et le plus beau de ce film, qui parle de la manière de comment raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on entend une voix off derrière. Souvent, elle dit « La légende dit qu'il s'est passé ça. D'autres peuples racontent de ça. » Mais là, seule cette personne sait, et seule sait ce qui a été juste pour elle. En tout cas, le monde continue, et aujourd'hui, ça va au-delà. C'est aussi la manière de raconter une histoire, c'est une mise en abîme qui est très belle. Allez voir ce film. Voilà, allez le voir.
Bon, mais tu as prêché toi aussi, et je dois dire que tu prêchais un petit peu dans le désert, parce que j'avais été voir Fury Road il y a presque 10 ans.
Ah, oui.
Tout le monde me disait c'est génial. Moi j'avais vu les Mad Max quand j'étais petite dans les années 80 avec Mel Gibson. Je me suis dit ouais on y va. Je me suis ennuyée grave pendant tout le film. Je me suis dit mais cours poursuite, ok, très bien. 5 minutes, ça va. 2 heures de cours poursuite, j'en ai marre.
Je comprends.
Tu me dis que, enfin, j'ose dire ça. Je sais que tout le monde dit que le précédent était exceptionnel, mais je me suis emmerdée.
Long. C'est possible.
Donc, peut-être, je vais retenter l'expérience de Furiosa. Merci Mathieu, et en tout cas, j'encourage les auditrices et les auditeurs à aller le voir à Aubenas. Et puis, il sera bientôt au Quinconce et au Vence, évidemment. Allez, on termine avec un dernier film dont on a déjà parlé. Allez, on se remémore, et juste en chanson. Procolarum, A Whiter Shade of Pale, en 1967, pour parler du film Memory, que tu es allé voir à la suite de René, qui lui aussi avait aimé ce film, qui avait été touché par ce film. Alors, est-ce que tu as été touché comme René par ce film ?
Énormément, et j'ai réécouté la chronique de René, en gros pour les mêmes raisons. Je trouve excellent l'idée d'avoir passé pour plus qu'illustrer, hein, pour amener le film Memory, ce morceau de Procol Harum, qui pour les gens, en tout cas de mon âge, et celui de René, est à la fois un élément de mémoire et un souvenir, quoi. Enfin, donc, parce qu'effectivement, je suis tenté de reprendre la chronique de René pour la redire, la refaire avec mes mots. Donc, on rappelle que le film consiste essentiellement en la rencontre de deux personnes, Sylvia, qui, elle, est porteuse d'un souvenir.
Jessica Chastain,
extraordinaire, est-il besoin de le dire ? Oui, il est besoin de le dire. Oui. Parce que c'est vraiment une composition merveilleuse. Donc Sylvia, qui est porteuse d'un souvenir très très mauvais, un très mauvais souvenir. On a des bons et des mauvais souvenirs, voilà. Et puis la rencontre d'elle, Sylvia, avec Saul, qui
Peter
lui.
Peter Sarsgaard.
Oui, pareil, composition extraordinaire. De quelqu'un qui ne garde pas un souvenir, mais perd la mémoire. Donc, il y a un jeu sur memory qui, effectivement, peut vouloir dire souvenir et mémoire. Mmh. Alors, chose que nous confondons très régulièrement et qui sont, en fait, deux choses tout à fait différentes. Alors, on a une illustration de la différence entre le souvenir et la mémoire. On a une mise en scène du souvenir et de la mémoire, la rencontre du souvenir et de la mémoire. Et deuxième point que je... Donc après ce sens du mot anglais. Deuxième point que je reprends de la chronique de René, une parfaite conformité du fond et de la forme. C'est-à-dire que cette rencontre du souvenir et de la mémoire, on la voit dans toutes les images du film. Et d'un point de vue, alors je dirais presque philosophique, évidemment, c'est passionnant. Alors, c'est quoi la différence entre la mémoire et le souvenir ? La mémoire, c'est une faculté. C'est une faculté, je me souviens de quelque chose, c'est une faculté qui peut effectivement, comme dans le cas de Saul, tomber en panne assez gravement, c'est-à-dire que la conséquence est qu'on oublie, on ne fabrique plus de souvenirs. Or, la mémoire, évidemment, c'est une faculté qui est tout le temps nécessaire. Si moi, je me penche vers toi, Sophie, pour t'emprunter ton stylo bic, il faut qu'au moment où je produis ce geste, je me souvienne du début du geste pour pouvoir le finir. Il faut même qu'au début du geste, je me souvienne pourquoi j'ai commencé à le faire, à savoir t'emprunter ton stylo, parce que sinon, je ne peux pas le faire non plus. Donc, si vous prenez l'exercice de la mémoire, donc il est utile là, mais il est utile pour des choses à l'échelle du temps beaucoup plus importante, comme aller se promener, comme faire un travail, accomplir une tâche, et puis, Et c'est là que ça devient effectivement existentiel. C'est utile au point de vue de son existence complète, d'où je viens, où je vais et pourquoi. Si vous perdez, si vous avez des gaps comme ça dans votre mémorisation, ça va être très très compliqué de conserver l'unité de vous-même pour être vous-même. Qui perd la mémoire se perd en fait. Et d'ailleurs, accessoirement, c'est pas du tout le cas dans le film, mais comme ça, au passage, bing, je signale que c'est un peu la même chose pour les communautés. Une collectivité, une communauté qui perd la mémoire se perd elle-même en même temps. On l'a vu avec cette tentative de parler des 80 ans du débarquement, d'essayer de reconstruire quelque chose avec ou sans Poutine, etc. Bon.
Memory, donc.
Bah, oui, Memory.
Et de puis, Michel Franco.
Et puis, souvenir. Les souvenirs, c'est autre chose. Les souvenirs, ce n'est pas la puissance et la faculté de production. Les souvenirs sont les produits. Mmh. Et alors, les souvenirs, ils sont là. Ils s'usent avec le temps, probablement, quoi qu'on ne puisse pas en juger. Ce n'est pas comme une photo. Si vous avez une photo dans un tiroir, vous pouvez aller vérifier vos souvenirs. Mmh. Un souvenir, il est intériorisé et il se dégrade.
Il se déforme.
Il est actif, en fait. Mmh. C'est plutôt ça. Il est actif ou inactif. Mais je veux dire,
il est actif, mais guère plus qu'un objet perdu dans une couche archéologique.
Il se réactive, c'est ce que je veux dire.
Oui, mais alors ça, c'est la mémoire qui opère ça. Le souvenir en lui-même, c'est une trace qui, principalement, tu vois, la mémoire va pouvoir le récupérer pour le réintégrer à sa production. Si tu veux. Mais le souvenir en tant que tel, avant que la mémoire s'en saisisse, il semble subir une espèce d'entropie. C'est-à-dire que, vous savez, l'entropie, c'est l'idée que si je casse un verre, il n'y a aucune opération qui permet d'inverser et que le verre se reconstitue. Bon, ben c'est pareil, le souvenir, il est formé, un fragment se dépose, et puis... il est impossible évidemment de revenir à ce qu'il a produit ce souvenir. Et il est impossible de modifier quoi que ce soit, évidemment, à la situation qui a produit ce souvenir. Or justement, Sylvia est porteuse de ce très mauvais souvenir dont je parlais, qui effectivement agit, alors là pour le coup, sur elle, pour orienter évidemment le travail de sa mémoire, et... l'isoler des autres qui n'ont pas ce souvenir et de toute façon ne veulent pas en entendre parler de ce qui a été mémorisé, du souvenir. Donc, vous avez Sylvia qui est isolée par son souvenir et Saul qui est isolé par sa perte de mémoire. Et ces deux vont se rencontrer et vont en quelque sorte se compléter, l'une avec son souvenir terrible et lui... avec son absence. Et alors, bon, rapidement, forme fond, tout ce qui a rapport au souvenir est illustré dans le film par tout ce qui est cloisonné, fermé, verrouillé. À chaque fois que la relation est coupée, que les gens ne se comprennent pas quand ils se parlent, etc., on est dans l'ordre du souvenir que je ne peux pas partager, que je ne peux pas confier, montrer, etc. Et puis au contraire, dès qu'on est du côté de la mémoire qui refonctionne, on est du côté d'une promenade qu'on fait, d'un rendez-vous qu'on se donne, d'une relation qui débute. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire la dynamique vient se saisir des souvenirs pour emporter le tout. Et ça, c'est illustré en permanence par chaque image, chaque jeu d'acteur, chaque... Si bien qu'effectivement, vous vivez une sorte d'odyssée du souvenir et de la mémoire... et en plus, très très concrète, on est bien à New York, on est bien il y a bien un personnage qui vient de Miami, il y a bien une jeune femme qui va aller faire ses études à Boston. On est donc bien ancré dans un milieu américain dont on voit les détails. Donc c'est quand même assez extraordinaire, ouais.
À voir, Memory de Michel Franco, qui est à Aubenas, et puis à partir du 20 juin, tiens, qui sera au cinéma des Vences. Merci à tous les trois, Mathieu, de nous avoir parlé de Furiosa et donné envie, Olivier pour Memory, la petite vadrouille, et Sylvain, la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain Cinémascope. Ciao.
Ciao.
Voilà. Au Paris, ça.